hashtag. Hashtag l'attaque.
Et aujourd'hui dans le hashtag l'attaque, il y a Hélène Chevalier qui adore NTM, et Sébastien oui. Boller et Axel Villard. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
On va commencer avec les infos du jour. Sébastien, vous avez repéré pour nous une étude sur la gestuelle de l'honnêteté.
Voilà, alors ce sont des expériences assez amusantes qui montrent que certains gestes peuvent vous amener à être plus honnête,
ah
Mathieu.
Bon,
alors,
c'est formidable.
Ce sont des gestes très simples. Alors, par exemple, dans ces expériences, une partie des personnes testées devait poser la main sur l'épaule, mettez votre main droite sur votre épaule gauche, ouais. Et puis jouer à des jeux de société, par exemple. Et puis les autres devaient juste baisser un petit peu la main de façon à ce qu'elle soit sur le cœur.
Ah, oui.
Et on a vu que les personnes qui avaient la main sur le cœur trichaient beaucoup moins que les autres. Ça fait appel à toute une théorie sur l'amorçage des attitudes et des pensées.
Ça
corps.
Fait l'objet d'une étude qui vient d'être publiée récemment.
Tout à fait. Voilà.
Hélène, vous nous parlez photo aujourd'hui ?
Oui, avec ce travail d'une photographe découvert par la rubrique écran du site internet de Libération, Caroline Delieutras s'est amusée à comparer les clichés réalisés au bord des routes par Raymond Depardon, que l'on peut notamment découvrir dans le livre Journal de France, avec celles prises au même endroit et avec le même angle par Google Street View. D'un côté, des images prises par un humain avec une chambre photographique. De l'autre, prises à la chaîne par une machine. Je vous laisse découvrir le résultat sur devision.fr.
Ok, ben on ira voir effectivement.
C'est
il y a le lien sur le site de la Tête au Carré. Axel, vous nous parlez des dégâts causés par le super typhon Ayan.
Oui, et d'une nouvelle façon pour les journalistes de les mesurer et de les décrire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du drone journalisme.
Pas vraiment.
Hélène, peut-être.
Oui.
C'est
mm-hmm.
l'utilisation de petits drones équipés de caméras pour aller chercher des images que des hélicoptères ou oui. des reporters auraient des difficultés à faire. Des scènes de guerre, de catastrophes, de manifestations. Et les médias américains utilisent de plus en plus cet outil. Et CNN a tourné des images très parlantes des décombres de la ville de Tacloban, complètement rasée par le typhon. On se rend compte de la puissance de ce qui s'est passé aux Philippines quand on voyage à quelques mètres du sol, hein, comme un oiseau. Je vous invite à regarder, c'est vraiment prenant. Comme
voilà, image. On a mis en lien les images de CNN sur la page du hashtag l'attaque. Hélène, vous êtes rendue à la première édition du 3D Print Show, un salon dédié à l'impression en relief.
Oui, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais les imprimantes vont envahir notre quotidien.
C'est ça qu'on entend là derrière ?
Exactement. Pour comprendre, ça consiste à imprimer des couches successives qui s'empilent et qui forment donc des objets. Hein. Pour le moment, la matière la plus utilisée, c'est le plastique. Mais on peut imprimer également en céramique, en sable, en métal et même en chocolat. Lors du salon, les visiteurs étaient accueillis par une énorme tête de dinosaure, un Triceratops horridus imprimé par la société Créasaurus qui s'est spécialisée dans le domaine de la paléontologie. Sa directrice générale, Cyrielle Langeux.
D'utiliser la technologie 3D, ça permet beaucoup plus de précision qu'on peut avoir à la main finalement, parce que sculpter des morceaux de polystyrène, même quand le paléontologue vous dit que ça va pas, c'est un peu compliqué de finalement tout détruire. Donc là, vu que c'est sur un logiciel, bah, ça nous permet de gommer beaucoup plus facilement et tout ça. Et on peut donc imprimer en fait donc ces fichiers 3D grâce aux imprimantes 3D.
Et donc vous pouvez imprimer des dinosaures en taille réelle en fait.
Voilà, exactement ça. Donc bon, après, les machines de très grande taille n'existent pas. Donc ce qui se passe, c'est qu'on procède par... On découpe énormément de plaques. Par exemple, le spécimen que vous avez devant vous, il y a plus de 250 plaques assemblées. Donc il suffit juste d'un peu de glu et un petit coup de peinture dessus et voilà.
Alors Hélène, qu'est-ce qu'il y a de si révolutionnaire dans l'impression 3D qui va nous envahir ?
Eh bien oui, bien cela permet de concevoir des pièces extrêmement compliquées, de personnaliser également des objets ou encore de réaliser des maquettes très rapidement. Petit tour des domaines qui l'utilisent déjà avec Alexis Choron de l'entreprise Kidart 3D.
Les infographistes s'en servent pour donner vie à leur création. On la trouve dans le médical. Il y a une première greffe de mâchoire en titane l'année dernière. Mâchoire complète, inférieure,
qui a été
imprimée en 3D par une machine qui est imprimée en titane biocompatible. On la trouve dans le secteur automobile, on la trouve dans l'aviation, où on fait des pièces d'avion en titane aussi, ou dans des aciers extrêmement solides, et qui sont des pièces qui vont dans les avions, qui intègrent les avions. Voilà, donc les applications.
Le futur, ce sera quoi ?
Le futur, ce sera clairement que, comme Bill Gates a dit à une époque, un PC sur chaque bureau, on aura probablement dans 20 ans peut-être une imprimante 3D sur chaque bureau, une petite imprimante 3D. Et le futur, c'est aussi et surtout une autre manière de produire des objets de consommation.
Voilà, et dans le futur, certaines productions pourraient même être relocalisées. Hein. Les objets ne seraient plus produits en masse en Chine, mais personnalisés dans des boutiques au coin de la rue. Clément Chappert commercialise depuis peu la Digital Object Maker, une imprimante à moins de 1000 euros. Et pour ce jeune entrepreneur, cette technologie pourrait aussi aider les pays émergents.
Ça peut être un super outil pour ces pays qui sont un peu à l'écart des grandes routes de commerce, des pays dans lesquels il est parfois difficile de se fournir en équipement, en pièces de rechange. Leurs voitures, leurs électroménagers, leurs ordinateurs, eh ben, ce sont les ordinateurs, les voitures, l'électroménager que nous, on utilisait il y a 10-15 ans. Et eux, ils sont les champions de la lutte contre l'obsolescence programmée. Ils réparent tout ce matériel là-bas. Et on pense qu'avec ce type de machine, des imprimantes 3D, ils pourraient peut-être mieux les réparer ou allonger encore plus la durée de vie de ces équipements. Et puis après, pourquoi pas développer leurs propres produits eux aussi.
Donc c'est ça, Hélène, avec cette petite imprimante à moins de 1 000 euros, on peut faire
des petits objets pour le moment en plastique, mais ouais. On peut imaginer à l'avenir d'autres matériaux.
Et vous avez parlé des plastiques en eux-mêmes. Est-ce qu'on peut les récupérer, les recycler? Est-ce qu'il est question de...
Justement, là, il y a une semaine, ils ont annoncé justement la création d'un plastique fait avec des algues, justement, donc qui serait complètement recyclable.
Ouais. Et on parle de choses absolument incroyables avec la 3D. On pourrait construire des maisons, pizzas.
Alors, ça, des pizzas, ça, je demande à
voir. Le prochain numéro de Cerveau et Psycho,
c'est
Sébastien.
La NASA parle de pizza, voilà. Mais je pense que ça, c'est un petit coup de pub.
En tout cas, des maisons, on a beaucoup en parler. Axel, vous nous faites entendre aujourd'hui le son d'un instrument unique et rare.
Oui, écoutez bien chez vous et dans ce studio et essayez de vous représenter visuellement ce que vous allez entendre. Le morceau, vous le connaissez peut-être, hein, c'est le menuet en mi majeur du quintet à cordes de Luigi Boccherini. Mais là, c'est l'instrument qui nous intéresse.
Ça s'appelle un violon, non ?
Ça change de NTM.
Alors, ça ressemble à un violon, mais il y a beaucoup trop de notes en même temps pour que ce soit un violon. Ou alors, il faudrait qu'il y ait beaucoup de violonistes. Peut-être, Sébastien, une idée de...
Ouais. Une machine à jouer de plusieurs violons.
C'est presque bizarre.
On entend le violon, le piano et le clavecin.
Voilà.
C'est un mélange.
Alors, on s'en rapproche, mais je vais garder le suspense sur le nom. Ce que vous avez entendu, c'est l'œuvre de deux hommes. Il s'appelle le premier Sławomir Zubrycki.
Bravo.
C'est un pianiste polonais et c'est lui qu'on entend jouer. Il est seul sur scène et c'était il y a 2 jours pour le Royal Festival de Piano de Cracov en Pologne. Il joue du viola organista. Et c'est là qu'intervient notre deuxième homme. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il s'appelle Léonard de Vinci et c'est lui qui a imaginé cet instrument il y a 500 ans.
Oui, c'est un vieux pote. Ouais.
Mais il ne l'a jamais ni touché, ni même entendu résonner. Il n'a fait que les plans.
Donc ça, c'est l'instrument, le viola organista.
C'est le nom de l'instrument, Axel.
Et ça ressemble à quoi, alors, exactement ?
Alors, ça ressemble à un piano un peu plus long. En tout cas, ça, c'est vu de l'extérieur. Et un quatuor à cordes, et ça, c'est vu de l'intérieur. En fait, c'est un peu les deux. Un piano, donc, c'est un instrument à cordes frappées. C'est-à-dire que pour obtenir un son, on tend une corde et on tape dessus pour la faire vibrer. Un violon, c'est un instrument à cordes frotté. On tend une corde et on frotte dessus avec un archet, cette fois, pour la faire vibrer. C'est pas pareil. L'avantage du piano, c'est qu'on peut taper en même temps sur plusieurs cordes et pour faire résonner plusieurs notes en même temps. Mais on n'est pas maître de la durée du son. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a tapé, la résonance finit par s'arrêter et il faut retaper. Avec un violon, on est maître de la durée. Tant qu'on frotte, la corde résonne. Mais par contre, c'est très dur de jouer plusieurs notes à la fois. Et donc, il résout le problème en faisant un viola organista.
Donc là, techniquement, c'est possible de fabriquer un instrument qui fusionne en deux, hein, c'est ça ?
Alors, de Vinci, on le sait, c'était un maître ingénieur, hein, et cet instrument, c'est encore une démonstration. Le clavier de l'organista vous permet de jouer donc plusieurs notes en même temps, si vous voulez. Au lieu de frapper les cordes, elles sont frottées, et elles résonnent tant que vous gardez le doigt sur les touches. Il y a un système de vilebrequin qui entraîne en continu 4 roues d'une 20aine de centimètres, recouvertes de crin de cheval.
Voilà, ouais,
et quand vous actionnez une touche, la corde vient tout doucement se poser sur la roue qui tourne, et elle vibre. Plus ou moins fort et plus ou moins longtemps, selon votre doigté. Écoutez, Sławomir, c'est lui qui joue, mais c'est aussi lui qui a recréé l'instrument pour la première fois depuis 500 ans.
C'est le dessin de Léonard de Vinci qui m'a servi de base pour faire cet instrument. Ce n'est qu'un dessin, et ce n'est pas un dessin technique. Il ne contient donc pas toutes les informations nécessaires. Dans le Codice Atlantico, il a juste laissé plusieurs dessins, 2 versions de l'instrument. Il a donné une description détaillée de comment il devrait fonctionner, et voilà tout.
L'interview, si vous voulez écouter en entier, c'est sur le site de l'AFP. Et si vous voulez entendre le morceau en entier, c'est sur le site de La Tête au Carré.
Voilà, donc jouer au viola organista avec cette vidéo. Sébastien, du nouveau sur les troubles du sommeil, c'est votre chronique.
Oui, alors vous allez voir, ça concerne en fait quelque chose de très simple, qui fait partie de notre quotidien et qui, sans en avoir l'air, pourrait peut-être bien nous gâcher une partie de nos nuits.
J'ai des problèmes de conscience. Vous croyez que c'est ce qui m'empêche de dormir ?
Ça se pourrait.
Vous avez quelque chose à me prescrire ?
Un médicament pour votre conscience ? Bien sûr que non.
C'était un extrait du film Insomnie en 2001. Alors, au vu de l'étude qui vient de paraître dans le Journal of Clinical Sleep Medicine, on aurait envie de demander à ce pauvre personnage du film s'il n'a pas un peu abusé, et oui, excusez-moi, du café. Oui, du café. Les scientifiques de cette université ont étudié les effets d'une tasse de café prise 6 heures avant de dormir, ou 3 heures avant de dormir, ou juste avant le sommeil. Et alors, ils donnaient à leurs participants soit des comprimés de caféine qui correspondaient à la dose d'un expresso, soit un comprimé placebo qui contenait aucun produit actif. Et alors, plusieurs paramètres étaient mesurés. On posait un bandeau autour du crâne des volontaires qui repère les différentes phases du sommeil. On mesurait le temps total de sommeil ainsi que le temps mis à s'endormir. Et les scientifiques ont constaté que pris 3 heures avant le coucher ou bien juste avant, le café réduit la durée totale de sommeil d'une heure. S'il est pris 6 heures avant le coucher, alors ça c'est le café qu'on prend au travail dans l'après-midi, on perd quand même 40 minutes de sommeil. Alors, on ne s'en rend pas forcément compte, c'est ça qui est un petit peu pernicieux, c'est-à-dire que ces interruptions de sommeil sont sous forme de micro-éveils pendant la nuit, c'est des interruptions dont on n'a pas forcément conscience, pourtant, qu'on ne mémorise pas. Voilà.
C'est bizarre parce qu'on dit souvent que le café n'agit pas tout de suite, qu'il faut attendre plusieurs heures précisément.
Alors ça c'est une légende urbaine, parce que bon, les études physiologiques montrent que la caféine est absorbée très rapidement, elle parvient au cerveau en 5 minutes, et le maximum de concentration est atteint en une heure. Donc les principaux effets de la caféine, alors c'est une désinhibition de l'activité cérébrale, c'est-à-dire que le cerveau augmente son métabolisme et son activité, et une libération d'adrénaline avec toutes les conséquences qu'on connaît. Et dans tous les cas, cette étude le confirme, si vous prenez un café juste avant d'aller dormir, ce ne sera pas bon.
Il y a beaucoup de personnes qui ont été testées là, ou
alors,
pas ?
Ça c'est la réserve qu'il faut émettre aujourd'hui sur cette étude, c'est qu'elle a été réalisée sur un échantillon assez réduit de 16 personnes. Alors sur cet échantillon... les résultats sont néanmoins statistiquement tout à fait probants, mais on attend évidemment une étude sur de plus grands nombres pour savoir si le milliard de café consommé quotidiennement dans le monde, c'est la boisson la plus consommée au monde, le café, coûte effectivement des milliards d'heures de sommeil à l'humanité. Et précisons que nous dormons quand même une heure et demie de moins aujourd'hui qu'il y a un siècle.
Ouais. Un petit coup d'œil sur le magazine Cerveau et Psycho, justement, Sébastien, qui est en kiosque en ce moment.
Quoi parle-t-on ? Consacré aux addictions et notamment aux nouvelles addictions, l'addiction au jeu, l'addiction au travail, toutes ces choses qui ne concernent pas des drogues, des substances, mais des comportements.
Donc c'est en kiosque, Cerveau et Psycho, et on consacrera une émission à ce sujet dans les semaines qui viennent. Et puis, Axel, il faut voter, on invite nos auditeurs à voter. Pour choisir l'émission, le thème de la Tête au Carré pour le mardi 10 décembre prochain.
Oui, les votes sont ouverts depuis ce matin. On en a déjà recueilli, je crois, 150. Vous pouvez voter pour le sujet de l'émission du 10 décembre. Je vous en donne quelques-uns. Le radon venu du sous-sol, la sérendipité ou l'art de saisir l'inattendu, les smartphones. Est-ce que vous en avez d'autres, Mathieu ?
Le génie et la folie, par exemple. Le cerveau bayésien. Alors ça, vous découvrirez ce que c'est. Ou l'oreille absolue. Voilà, ça fait partie des sujets. Il y en a plusieurs. Vous votez, vous cliquez.
Et on vous remercie déjà de nous les avoir proposés parce qu'on en a reçu énormément.
Et on retiendra donc le meilleur résultat pour faire l'émission le 10 décembre prochain. Franceinter.fr, la page de la Tête au Carré pour vos votes.